Vous êtes bien sur l'émission Ça part de là où je reçois Brigitte Lecordier lors de la Japan Expo Sud. Après nous être penchés sur le métier de mixeur son, restons encore un petit peu dans l'univers du cinéma. Vous avez déjà certainement entendu sa voix dans Dragon Ball ou plus récemment dans La Petite Mort. Brigitte Lecordier est aujourd'hui une figure emblématique du doublage français. Partons à la découverte de son témoignage. Bienvenue sur Sa part de là.
Ben bonjour, merci.
Je suis très contente de vous recevoir parce que c'est un métier que je suis très heureuse de pouvoir mettre en avant sur le podcast.
Merci.
Tout d'abord, comment vous en êtes arrivée là? Est-ce que vous avez fait une formation au début?
Ah oui, pour faire le métier que je fais aujourd'hui, il faut d'abord être comédien. Parce que toi, on va me demander de jouer quelque chose, mais je sais jamais à l'avance ce que je vais jouer, donc il faut être apte à tout jouer, quoi. On a des formations. Moi, j'ai commencé clown, par exemple.
Okay.
J'ai été clown d'abord. Et puis, du clown, je suis allée sur scène. On m'a demandé au théâtre. Et puis, au théâtre, eh ben, comme je ne suis pas très grande, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais du coup, on m'a demandé de venir jouer des enfants ou des petits personnages ou des trucs comme ça. Et un jour que je jouais au théâtre Le Malade Imaginaire, je jouais le rôle de Louison, c'est une petite fille dans Le Malade Imaginaire qui est très coquine, qui fait semblant de mourir. Je faisais une mort qui durait 10 minutes sur scène, ça faisait marrer les enfants. Et eh bien, il y a des gens qui cherchaient une voix d'une petite fille pour une pub d'Amnesty International.
D'accord.
Et du coup, ils sont venus me chercher en disant wow, « la petite fille est trop géniale ». Ils se sont rendus compte que j'étais une adulte. Et ben, ils étaient contents parce que c'était plus facile de faire travailler une adulte qu'une enfant. Et puis j'ai fait la pub. Et puis de là, ben, tout le monde a dit « ah mais c'est quoi cette voix de petite fille, elle est trop bien ». Puis voilà, et je suis passée de petite fille à petit garçon.
D'accord.
Et puis voilà, et me voilà aujourd'hui, petit garçon et quelquefois encore petite fille.
Et du coup, quand vous avez fait cette formation de clown, vous aviez à peu près quel âge? C'était
Je sortais de l'école, j'avais une vingtaine d'années.
D'accord. Et à l'école, du coup, c'était quelle sorte de formation que vous aviez suivie?
À l'école?
Ouais.
Ah, moi, j'ai fait des études scientifiques.
D'accord.
Je me destinais à être médecin.
D'accord. Donc, c'était pas le théâtre d'abord, quoi.
En fait, ça n'existait pas, les études de théâtre.
D'accord.
Ça aurait existé. Puis moi, je ne pensais pas au théâtre du tout. C'est-à-dire que le théâtre ne faisait pas partie de mon univers. Je suis d'une famille d'ouvriers. Hein. Donc nous, chez moi, on n'allait pas au théâtre, on n'allait pas au concert, on allait quelquefois au cinéma, mais c'était pour voir des films que mon père voulait voir. Donc c'était souvent des films de guerre. Donc c'était pas pour du tout le spectacle n'existait pas autour de moi, quoi. En revanche, il y avait les cirques qui arrivaient quand ils arrivaient à Paris. Moi j'étais à la périphérie de Paris et les cirques n'avaient pas le droit de rentrer dans Paris.
D'accord.
Donc ils se mettaient à cette périphérie. Nous on était dans la zone. Nous étions des zonards, donc du coup quand on voyait le cirque s'installer, nous on courait les voir pour essayer de les aider. Et en échange de l'aide qu'on pouvait apporter pour monter chapiteau ou autre, ils nous donnaient des places de cirque. Et du coup, j'ai pu voir du cirque comme
D'accord.
ça. Et c'était vraiment ma culture. Et j'aimais beaucoup. En plus, les enfants du cirque venaient dans mon école le temps que le cirque soit installé dans le lieu où on habitait. Et puis voilà, et j'étais familière avec ça. Je ne savais pas du tout que le théâtre existait et je suis arrivée au théâtre vraiment par une porte qui m'a ouvert un immense champ de jeu, quoi. Voilà.
Mais du coup, comment on passe de la médecine à une formation de clown? Vous êtes allée démarcher?
C'était évident pour moi, oui.
C'est
Annie Fratellinis venait juste d'ouvrir son école du cirque. Et moi, quand j'étais enfant, quand je disais je veux être clown, en fait, on me disait non, mais tu ne pourras jamais être clown, puisque clown, c'est pour les garçons.
D'accord.
C'est les garçons qui sont des clowns. Et moi, j'étais docile parce que, j'ai effectivement constaté que les clowns, c'était les garçons. C'était un peu idiot ce que je proposais. Et puis, lorsqu'Annie Fratellini a ouvert son école, je dis, mais Annie Fratellini, c'est une fille. Et en plus, elle est clown, quoi. Donc, il faut que j'y aille. Et je suis allée. Et j'ai été prise. Et puis, voilà, j'ai fait une formation chez elle. Et puis après, quand on m'a appelée pour jouer au théâtre, parce que j'étais marrante, petite, j'ai pris des cours de théâtre avec Pierre-Olivier Scotto, où on avait une belle troupe d'une centaine de comédiens, où on a pu vraiment s'exprimer, apprendre beaucoup de choses, le classique. Pierre-Olivier Scotto sortait de la Comédie Française.
D'accord.
Il était très jeune, nous on était très jeunes aussi. Il avait beaucoup de talent de metteur en scène, de directeur, d'acteur, etc. Donc il a su nous apprendre beaucoup de choses très vite. Et nous donner une grande liberté de jeu aussi, travailler beaucoup sur l'improvisation, etc. Et puis en fait, après, j'ai pas arrêté d'enchaîner. J'étais prise pour un spectacle, et puis des gens venaient me voir dans ce spectacle, et puis j'étais prise dans un autre, ou autre chose, ou à la radio. Je suis passée du théâtre à la radio par hasard aussi. Ouais, j'ai fait beaucoup de dramatique radiophonique à Radio D'accord. France. Parce qu'on m'a vu jouer à Avignon au théâtre. Je faisais un petit garçon autiste et ce spectacle avait vraiment frappé les gens. Je crois que j'avais eu le prix du public. Et Radio France est venue vers moi en disant « Mais on a besoin d'un petit garçon dans une dramatique ». Et là, pareil, ça fait traîner de poudre, quoi. Le petit garçon, il est resté 20 ans, quoi.
Et quand vous avez commencé le doublage du coup de films et de films d'animation, est-ce que vous avez vraiment senti une grande différence entre acteurs réels, on va dire, et personnages animés ?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est le même sorte de jeu parce qu'il faut être vraiment très intense et puis très sincère dans les deux cas. Après, le dessin animé te laisse beaucoup plus de liberté, en fait. Et puis, il faut jouer peut-être un petit peu plus intensément dans le dessin animé. Parce qu'en fait, c'est qu'une image qui ton support. Alors que quand tu es en live, la personne, elle a un regard, elle a des mimiques, elle a une expression que le dessin n'aura pas. Même s'il est magnifique.
Et à force de jouer des personnages, que ce soit sur scène, même à la radio, etc., est-ce que ça vous a donné vous-même envie d'écrire à un moment donné ?
De par le fait, t'es souvent obligé d'écrire, surtout que maintenant je suis sur YouTube et tout ça, donc j'ai obligé d'écrire mes vidéos. Mais oui, j'ai écrit un bouquin, mais j'ai pas écrit de scénario. Ouais. J'ai pas eu envie d'écrire des scénarios. Maintenant, sur ma chaîne YouTube, j'ai envie justement d'écrire des scénarios. Non pas pour moi, mais pour faire connaître mes camarades avec qui je joue depuis tellement longtemps et qui sont tellement peu connus par rapport à moi et qui sont d'excellents comédiens. Et j'ai envie de mettre les comédiens de doublage à l'image, voilà.
Et du coup, on vient souvent vous poser des questions sur comment entrer dans le doublage, etc. Parce que vous êtes une des grandes figures
maintenant. Oui, bien sûr. Alors oui, on me demande souvent cette question et ce qui est très étrange et ce qui est très difficile, c'est d'y répondre. Parce qu'en fait, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'école. Surtout, il ne faut jamais aller dans les écoles de doublage. Ça n'existe pas. Et celle qui existe, c'est du pipeau. Quand on est professionnel en tant qu'acteur, il est bon de faire un stage de synchro, mais pas à faire les stages payants, machin, des pseudo-gens que tu rencontreras jamais dans les studios. Il faut faire vraiment un stage professionnel avec des gens qui bossent dans le doublage. Et là, les gens ils vont te découvrir, ils vont dire « Ah, mais bien, ils vont te mettre sur un rôle après » où ils vont parler de toi à des directeurs artistiques en disant « Ah, j'ai eu en stage une comédienne, là, mais elle est géniale, quoi, et il faut la faire travailler. » Voilà, il n'y a pas de solution exacte pour rentrer dans le doublage.
Il n'y a pas un chemin.
Après, tu vois, il y a des gens, en ce moment, il y a des gens qui entrent par l'intermédiaire de YouTube ou de…
Même sur Twitch, ça peut être…
Ouais, c'est ça. Mais je suis pas fan de ça en fait, parce que du coup c'est un peu montrer une non-reconnaissance de ce travail, dire qu'en fait on n'a pas besoin de se former pour faire ce boulot qui est extrêmement difficile et extrêmement technique. Et oui, bien sûr, on peut dire quelques phrases dans un film, mais on peut pas être comédien, on peut pas être De Niro comme ça. Le comédien qui double De Niro, il est obligé d'être à son niveau pour le doubler. Bruce Willis, c'est pareil. Il faut être à son niveau pour le doubler. On ne peut pas le faire en dilettante comme ça, en plus, pour se faire plaisir. Enfin, ou alors vraiment dans une ambiance ou un truc comme ça, mais toi je préfère donner une ambiance à un jeune comédien qui va débuter et qui va mouiller sa chemise pour essayer de trouver des rôles plus intéressants que de dire ben tiens il y a machin, il a 2 millions de vues et je vais, ça va faire mousser mon produit, etc. C'est dévaloriser mon travail.
Je comprends. Et à force d'être invité dans les conventions de ce style, est-ce que vous vous rendez complètement compte de l'impact que vous avez quand même sur le public? Il y a beaucoup de gens qui vous remercient pour votre travail.
Ouais, c'est dingue. Hein. T'as vu la salle hier, elle était... il y a eu 1500 personnes, je crois. J'ai fait plus toute seule hier qu'aujourd'hui à 7. Donc, c'est magnifique. C'est une reconnaissance géniale qui arrive tard. Mais je vis mon bonheur là, toi, maintenant, quoi. Et puis ça donne des ailes, du coup ça me permet effectivement de faire YouTube, Twitch.
Oui, justement c'est ça qui vous a donné envie de vous lancer
sur
Twitch.
Ah oui, bien sûr. Parce que toi, parler à tous ces gens directement, pouvoir répondre directement à une question ou s'amuser carrément. Toi, moi je fais des jeux à la con et je suis ravie de jouer avec ma communauté et puis de se marrer, de dire que des bêtises pendant 2 heures, quoi.
Vous invitez aussi des camarades sur votre chaîne.
Ouais, c'est ça. C'est chouette quand même.
Carrément. Ouais. Et du coup, pour vous, c'est vraiment important de rencontrer votre public et de...
Ben oui, parce que c'est un public qui est tellement fidèle depuis tellement d'années et puis qui a partagé ça avec ses enfants et tout ça. Toi, moi, j'ai les premiers fans, ils ont 40 piges et même voire plus. Et puis maintenant, j'ai des petits poussins de 6 ans qui viennent. Et t'as tous les ados, etc. Et ça me fait vraiment plaisir, quoi. Toi, c'est pas un truc ringard qui est marqué dans le temps. C'est un truc qui perdure. Et cet engouement, quand je vois les petits gamins qui arrivent et qui sont tellement contents de me rencontrer, je me dis, chouette, tu vois. Et les parents, des fois, ils comprennent pas. Ils disent, c'est qui cette dame? C'est Brigitte. C'est pas une dame, c'est Brigitte.
C'est vrai que vous avez l'air quand même très proche de votre communauté malgré
ouais,
tout.
Ouais,
vous cherchez pas à être la célébrité qui rencontre ses fans, mais vraiment...
Ça serait dommage. Toi, les gens, ils m'aiment bien pour mon authenticité, ouais. Quoi. Et j'ai toujours véhiculé ça, et je crois que je peux pas être autrement, tout simplement. Et c'est important de montrer, on est comme ça, et on fait ça comme ça. Et puis les gens te suivent et puis leur rendre un peu l'amour qu'ils te donnent, quoi. Et puis c'est chouette. C'est un partage, hein. C'est un vrai partage.
Et on parlait aussi des générations qui se succèdent, etc. Vous êtes quand même rentré dans l'univers du doublage assez tôt. Est-ce que vous avez vu, même à travers le cinéma, une vraie évolution technologique
Énorme. Moi je suis arrivée, en fait, il y avait encore les boucles en bande, comment on dit, tu sais, en film là.
Ah, la pellicule.
En pellicule. C'était des bandes de 1 minute qui étaient coupées et collées, qui faisaient une boucle. C'est pour ça qu'on appelle ça la boucle, qui tournait. Et puis on branchait la bande magnétique qui tournait aussi d'une minute. Et puis il y avait un technicien derrière qui branchait à chaque fois une boucle. Et ça mettait 10 minutes pour brancher la boucle et ça mettait une demi-heure pour l'enregistrer. Puis après, j'ai vu arriver le magnétique. Les vidéos, il y a eu des Betamax d'abord, des grosses cassettes, puis les petites cassettes, et puis le numérique qui est arrivé difficilement et puis qui est arrivé d'un coup.
Ça a dû révolutionner quand même l'univers.
Mais un truc de fou, c'est-à-dire que ça révolutionnait au niveau du temps et ça a révolutionné aussi dans la façon de travailler. C'est-à-dire que moi j'ai eu la chance de connaître l'époque où on travaillait ensemble comme une troupe de théâtre.
D'accord.
Et toi, tous les Dragon Ball, les gens nous aiment aussi pour ça, c'est qu'il y a une grosse complicité parce qu'on était tous ensemble. Moi, je disais beaucoup de bêtises. Je faisais rire mes petits camarades. Et puis vraiment, on était vraiment comme une troupe, quoi, comme des frères et sœurs. Et puis, avec toutes ces années, tu imagines le lien que ça a fait entre nous, quoi. Aujourd'hui, en fait, on enregistre tout seul ou voire à deux, mais en général tout seul, parce que ça va plus vite. Dans Dragon Ball Super, j'ai vu que les scènes où il y a Zeno.
D'accord.
Donc je ne sais pas de quoi ça parle. Or, Dragon Ball, moi j'ai vu toutes les scènes avec tous mes camarades. Tu vois,
c'est plus facile de comprendre l'ambiance, du coup.
Évidemment. Et du coup, aujourd'hui, tu parles, tu enregistres des trucs, mais tu ne sais pas à quoi, à quoi ça répond, ni pourquoi tu dis ça, ni quel personnage c'est exactement, etc. C'est un peu différent. Alors, sur certains, moi, comme je suis directrice artistique aussi, sur certaines productions, j'arrive à convaincre les producteurs que, ben, il faut arrêter de travailler comme ça, qu'il faut travailler ensemble pour qu'il y ait un ensemble, pour qu'il y ait vraiment... un doublage, c'est aussi une chorale. C'est-à-dire que ben, moi, en tant que directeur artistique, je suis quand même un chef d'orchestre et je ne peux pas orchestrer instrument par instrument. Par contre, je peux orchestrer les instruments entre eux et les faire jouer entre eux. Et quand on arrive à ça et quand, quand j'ai les moyens de le faire, parce que voilà, c'est toujours une question de moyens financiers, et ben c'est génial quoi. Et ça marche bien et le résultat est chouette.
Ouais, ouais.
J'ai eu ça sur le Louvre Met, où j'ai eu vraiment une troupe de filles hyper chouette. On s'entendait bien et ben, pareil. Des fois, il y avait des trucs écrits, puis les filles proposaient autre chose. Et du coup, le réalisateur, eh ben, il avait envie de prendre ce que les filles avaient proposé et non pas ce qui avait été écrit. Et ça, je trouve ça chouette. C'est un vrai partage. J'ai ça avec les créateurs. Alors, quand je fais La Petite Mort avec Davy Mourier ou Pipoudou avec les Bobby Pils ou les Cassos, eh bien là, on travaille de cette façon-là. C'est-à-dire que c'est vraiment une interaction entre le créateur et le comédien. Ça, c'est génial.
Est-ce que vous voyez d'autres manières maintenant aujourd'hui de mettre en avant ce métier-là, notamment là je sais qu'il y a Jean-Marc Panetti qui a lancé une revue, je sais pas si vous êtes au courant,
oui,
mais qui
ouais.
parle des doubleurs, vous avez votre chaîne YouTube.
Ouais.
Est-ce que vous attendez peut-être, je sais pas, une remise de prix ou quelque chose de plus...
Je suis pas sûre que les remises de prix soient très intéressantes, mais... non, mais je trouve qu'on en parle bien là maintenant et c'est chouette.
Il y a un vrai changement entre il y a 10 ans et
aujourd'hui.
Il y a un
vrai changement.
Quoi.
Après, tu as toujours la non-reconnaissance des chaînes de télévision.
Ouais, du côté professionnel.
Qui ont des visions un peu, peut-être un peu âgées, un peu vieilles de ce métier-là et qui sont persuadées qu'ils détiennent la vérité. Donc, du coup, par exemple, moi, ils m'empêchent de travailler depuis des années. Eux, ils estiment que ma voix, elle est usée et ringarde. Voilà. Alors je leur dis, mais venez avec moi en convention et venez voir sur ma chaîne YouTube. Mais ils sont trop vieux pour ça, c'est-à-dire que trop vieux dans leur tête.
Oui, oui, oui. Malheureusement, ils ne sont pas bloqués sur ça, parce que même les métiers d'Internet, ils ont vraiment du mal à...
Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas du tout, ils ne comprennent pas. Et quand ils essayent de faire quelque chose, ils essayent de faire pareil, mais à la télévision. Donc du coup, c'est raté.
Et oui,
voilà.
C'est pas le même public, c'est pas...
Voilà. Oui, toi, j'aimerais bien faire des trucs sur le doublage à la télé, par exemple. Mais ils vont me demander de faire de la télé. Donc, ça m'intéresse pas. Autant que je reste sur ma chaîne et que je fasse ce que j'ai envie, quoi. Et que je parle des sujets que j'ai envie, le temps que j'en ai envie, toi.
Et maintenant que vous avez lancé votre chaîne YouTube, est-ce que vous voyez vous lancer des nouveaux défis dans le futur?
Mon prochain défi, c'est une série web pour ma chaîne que je suis en train d'écrire avec une camarade. Voilà, j'espère que ça sera bien. c'est des prochains défis. Je ne suis pas sûre d'en être bien à la hauteur, mais écoute.
Vous aviez d'ailleurs été actrice dans la série de Alfie, maintenant que j'y pense.
Ah ouais, j'ai adoré, quel bonheur de retourner à l'image et de travailler en tant que comédienne à l'image, c'est bien.
Ouais,
c'est
ouais.
comme ça que j'ai commencé en fait. Et toi, ça fait c'est un cercle quoi. Et j'espère que j'aurai d'autres propositions à ce niveau-là.
Je pense qu'on est
ouais,
bon.
Super.
Ouais, c'était super intéressant.
Écoute, je te remercie beaucoup et bon podcast.
Merci.
C'était Margot en compagnie de Brigitte Lecordier pour l'émission Ça part de là sur Radio Campus Montpellier. Merci à Marceau Maurice pour les designs de l'émission et à vous pour votre écoute. À très bientôt pour découvrir un nouveau parcours.